La dernière fois, on s'était arrêté, pour ceux qui ont les pages, la page 81 au milieu. La dernière référence qu'on avait faite, c'était en Marc chapitre 4. On avait parlé du moment où, utilisé comme illustration, quand Christ avait dit à ses disciples qu'ils vont passer à l'autre bord et qu'il s'est endormi, qu'il y avait cette tempête qui est venue et que ses disciples ont eu peur pour leur vie. Pas juste une petite crainte, mais ils craignaient réellement de mourir. Et on s'était arrêté avec cette question qu'il leur a posée, où il dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est une question qui nous arrive à nous parfois à poser à Dieu, nous aussi, peut-être pas avec les mêmes mots pour mots, mais le même sentiment. Quand nous sommes remplis de peur, on a une telle crainte, une telle peur, on se dit, mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce qui est en train d'arriver dans ma vie, en fait? Et pourtant, nous n'avons aucune raison de poser une telle question. Nous n'avons jamais la moindre raison de mettre en doute l'amour que Dieu a pour nous. On sait que Dieu sait ce qui se passe. Et de lui demander, Seigneur, est-ce que tu t'inquiètes pas de ce qui est en train d'arriver? C'est une question auquel on connaît déjà la réponse. Et d'ailleurs, pour le cas des disciples, quand les disciples ont posé cette question à Christ, Christ ne prend même pas le temps de répondre à cette question. Et pour lui, c'est tellement évident que ce n'est même pas la peine d'y prêter attention. Au lieu de cela, on voit Christ prendre le temps de calmer la tempête, d'enlever l'événement qui a produit cette peur chez ses disciples, pour ensuite leur demander pourquoi ils avaient peur. Il leur demande où est leur foi? Et il leur demande pourquoi n'ont-ils pas cru quand Christ leur a dit qu'ils devaient aller à l'autre bord, pardon. Il leur a pas dit allons dans le bateau pour qu'on puisse mourir en pleine mer. Il n'a jamais promis que la traversée serait facile. Il n'a jamais promis que la traversée serait sans difficulté. Il a juste dit on doit se rendre à l'autre bord. Peu importe ce qui se passe entre, ma volonté, c'est qu'on aille à l'autre bord. Et ça aurait dû suffire. Et on est souvent comme les disciples. Dieu veut que je fasse ceci, et on voit le résultat, mais il ne nous a pas dit ce qui va se passer entre maintenant et le résultat. Et quand la tempête arrive, ben oui, il peut y arriver. Arriver à ce qu'il y ait des choses qui apportent une crainte, c'est pas juste que ah, ceci est dur, il faut pousser, c'est lourd. Non, des choses qui nous font réellement peur. Il dit, mais il faut savoir traverser cette tempête et pas laisser cette tempête nous empêcher d'arriver justement à l'autre bord. Et je crois que Christ était prêt à comprendre leurs craintes. Il était prêt à comprendre qu'ils avaient peur de cette tempête. Ce qu'il leur reproche, c'est de ne pas avoir peur de la tempête, c'est de remettre en doute son amour pour eux. C'est de dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. C'est ça la reproche qu'il leur fait. Et Christ s'attendait à ce que ses disciples viennent à lui, à ce qu'ils viennent à lui pour lui demander son aide. Même ça, ce n'était pas un problème. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent à lui avec le doute que produit la peur, mais il s'attendait à ce qu'ils viennent à lui avec la foi. Que produira la confiance que tout ira bien. Seigneur, nous avons essayé, et cette tempête, elle est plus forte que nous, on n'y arrive pas. Est-ce que tu veux bien faire quelque chose? Je crois que la discussion qu'ils auraient eue entre les disciples et Christ aurait été extrêmement différente. Mais qu'ils viennent à lui et qu'ils lui disent, Seigneur, est-ce que tu t'inquiètes pas de nous? Ce n'est pas la même chose. Et on comprend que une tempête en pleine mer, dans la nuit, il y a de quoi faire peur. Une tempête en pleine mer, elle fait peur déjà toute seule. De ce qu'on m'a dit, d'être en pleine mer la nuit peut faire très peur, même dans le calme. Mais d'avoir les deux ensemble, l'obscurité apporte toujours une mesure de peur que nous n'aurions pas pendant la journée. Le vent mêlé à l'eau qui semble, par rapport aux descriptions que Marc nous donne, c'est pas juste quelques éclaboussures, mais que c'est comme des seaux d'eau, même plus que des seaux d'eau, mais des vagues qui viennent remplir le bateau. Et donc, On imagine d'avoir ces vagues pousser en arrière les disciples et les vraiment les submerger, hein, qui et les vagues qui en plus poussent le bateau de côté et d'autre, de haut en bas, on n'a pas d'équilibre. Le bruit, des fois, le bruit tout seul peut être extrêmement effrayant. Je sais pas s'il y a une grande différence quand il y a des gros coups de tonnerre, quand ils sont lointains, et quand ils sont tout près. Il y a une grande différence quand il y a ces grands coups de tonnerre quand tu es dans la maison et si tu es dehors. L'intensité de la peur est différente. Et c'est juste du bruit. Et là, ils avaient ce genre de bruit. Plus le bruit des vagues, plus le bruit du vent, plus eux qui sont en train d'essayer de crier pour se donner des ordres, pour faire ceci et cela, plus les éclairs, etc. Le tout devait les toucher au plus profond. Et je crois sincèrement que Christ comprenait pourquoi ils avaient peur. De la même façon, je crois sincèrement que Dieu comprend nos craintes. Il comprend pourquoi on a peur. Mais comme Christ avec ses disciples, Dieu n'excuse pas notre peur pour mettre en doute sa personne ou de mettre en doute ses promesses. Et c'est ça la grande différence. Vous pouvez regarder si vous voulez, je vais le lire, mais peut-être parfois c'est plus facile de le suivre avec les yeux aussi, psaume 121. Un psaume parmi d'autres qu'on pourrait utiliser pour parler justement de la peur et de notre réaction, etc. Le psaume 121, vu qu'il est petit, c'en est un qu'on peut choisir. Verset premier, il dit « Cantique des degrés, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Bon, il commence tout de suite, il dit, il a déjà des problèmes, il a déjà des difficultés, il a besoin d'être secouru. C'est pas juste qu'il a besoin d'avoir des réponses à ses questions, il a besoin d'être secouru. Et il suit, verset 2, « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Donc il dit, il peut me secourir parce qu'il est tout-puissant, il est créateur. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il y a beaucoup trop de vérité dans ces 8 versets de ce psaume qui touche sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peur. Déjà, lève les yeux vers les montagnes, d'accord, mais ensuite tourne ses yeux vers le Seigneur, vers l'Éternel, et vois. Ce n'est plus de se focaliser sur les circonstances, mais de se focaliser sur la personne de Dieu. Et il nous faut garder les yeux, notre cœur sur l'Éternel, malgré les cris de notre cœur. Que notre cœur soit tremblant, que notre cœur crie, dit, pars en courant, ça se comprend. Et le fait que notre cœur crie cela, on n'est même pas mis en faute pour cela. Mais c'est malgré notre cœur qui est tortueux et méchant par-dessus tout, qui veut nous faire oublier qui est Dieu et ses promesses et sa grandeur et sa puissance, et dit, tu ne peux faire confiance qu'en toi-même, vas-y, sauve-toi. C'est chacun pour sa peau. Non, j'ai dit, malgré cela, j'ai dit, Seigneur, c'est en toi que je me confie. Combien de fois est-ce qu'il dit, l'Éternel est celui qui te garde? Il le dit à maintes reprises dans ces quelques versets ici. Et malgré les bruits des influences autour de nous, comme pour les disciples, c'était la tempête, et nous, on a tellement d'autres choses autour de nous, ça devient comme un bruit qui veulent nous influencer, pour nous détourner nos regards de la personne de Dieu. Le plus qu'on a peur, le plus qu'on va se focaliser sur ce qui nous fait peur, et on oublie qu'on doit se focaliser sur celui qui peut nous secourir de cette peur, de se focaliser sur la personne de Dieu, de choisir de nous focaliser, de nous concentrer sur, pas juste le fait que Dieu est là, mais qui il est, du fait qu'il est amour, et de nous rappeler de ses promesses, et que Dieu n'est pas menteur, et que Dieu ne peut pas faillir. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous fait peur. Je ne dis pas qu'il faut ignorer la chose, qu'il faut ignorer ce qui nous fait peur. Je pense aux disciples. Il est tout à fait normal quand cette tempête arriva, qu'ils devaient tout faire pour justement garder le bateau à flot, de garder le cap. Ils devaient faire leur travail. Ils étaient, pour la grande majorité des pêcheurs, ils savaient comment manier une tempête et un bateau en pleine mer. Et Dieu ne s'attendait pas, et Christ ne s'attendait pas. Bon, la tempête va arriver, moi je dors, vous pouvez dormir aussi, vous inquiétez pas. Non, il dit, moi je vais dormir parce que je sais que tout ira bien, on arrivera de l'autre côté. Mais en attendant, faites votre travail. Mais vous n'avez pas besoin de vous laisser aller à la peur et à la crainte qu'apporte cette tempête, tout ira bien. Mais il devait quand même tirer les cordes, travailler la voile, ramer, jeter des trucs par-dessus bord, ce qu'il doit faire. Peu importe, ils devaient faire leur travail, mais pas de remettre en cause l'amour de Christ pour eux. Ça, on avait parlé, utilisé cet exemple pour dire qu'il nous faut parfois traverser les tempêtes, et que cette tempête nous fait peur, mais qu'on doit la traverser, savoir qu'on arrivera à l'autre bord. Pour utiliser un autre exemple, on va dire parfois il nous faut traverser la vallée. On en a parlé il n'y a pas longtemps, psaume 23, verset 4, ce verset que même beaucoup d'inconvertis ne connaissent pas, qui récitent dans les films bien trop souvent, à mon goût, dit: quand je marche dans la vallée dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bon, si vous remarquez, quand il a dit: quand je marche dans la vallée de la mort, dans l'ombre de la mort, pas si je marche. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce passage-là. Que nous allons tous passer par cette vallée de temps en temps. Il n'est pas raisonnable de croire qu'on va vivre toute notre vie sans jamais à faire face à cela. Ce serait vraiment plus une très rare exception que la règle. Quand Dieu voulut encourager Josué, quand il avait pris la place de Moïse, on connaît ces passages en Josué, chapitre 1er, versets 6 et 7, où qu'est-ce que Dieu lui dit? À plusieurs reprises, il dit: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, pardon. Donc à plusieurs reprises, il dit: fortifie-toi et prends courage, aie bon courage. Et il n'y a pas de place pour que Josué dise: oui, mais. Ou d'accord, mais si, ceci ou cela. Il n'y a pas de place pour cela. Il dit: la seule option qui me plaît, moi, Dieu, qui t'établis, toi, Josué, dans cette fonction, c'est fortifie-toi et prends courage. Regarde pas les circonstances, regarde pas à ce qui pourrait faire peur, faire vaciller. Je te dis, fortifie-toi et prends courage. Josué a vu de ses propres yeux ce qui arrive quand on ajoute oui mais à ce que Dieu nous dit de faire. Si ceci ou si cela arrive, quand le peuple refusa d'entrer dans la terre promise, il connaissait la volonté de Dieu, il savait que Dieu voulait qu'ils entrent, mais ils ont également vu les géants et les grandes armées qui habitaient le pays. Et Dieu leur disait: allez-y, je vous ai promis de vous offrir ce pays. Et ils ont répondu: oui, mais les personnes qui habitent ce pays sont nombreux et forts. Nous ne sommes que des sauterelles devant eux. Alors maintenant que Dieu dit à Josué de se fortifier, de prendre courage, ben Josué ne voudra pas faire cette même erreur. Il ne rajoute pas de oui, mais ou de et si. Il choisit de placer sa confiance en l'Éternel, alors que il avait de quoi avoir peur s'il le voulait. Il aurait pu réfléchir plus en détail à la situation dans laquelle il se trouve et dire: oui, mais Seigneur, tu sais que ce peuple, oui, mais et si ceci, et si. Il n'a pas fait toutes ces choses. Ils viennent de passer 40 ans à errer dans le désert, à cause des oui mais, des et si avant, quand Dieu leur a dit. Alors maintenant que Dieu dit à plusieurs reprises: Josué, fortifie-toi et prends courage. Fais-moi confiance, je suis avec toi. Mets-moi en premier, tout ira bien. Il ne fait pas de oui, mais il accepte. Vous savez, on n'aime pas quand, pour nous qui sommes parents, on n'aime pas quand notre enfant met en doute ce qu'on lui dit de faire. Et surtout si on sait qu'il ne comprend pas toute la situation, c'est nous qui faisons preuve de grâce, et au lieu de nous fâcher contre lui parce qu'il n'obéit pas tout de suite, on lui dit, vas-y, je sais que tu ne comprends pas le pourquoi ou comment ça va, quel sera le résultat exactement, mais fais-moi confiance, je sais ce que je te dis, fais ceci, tu verras, ça se passera bien. Si on voit l'enfant obéir tout de suite, on est heureux. Si on le voit hésiter, si on le voit nous questionner, bah, ça nous fait de la peine. Et on attend et on s'attend à ce qu'il obéisse sans à ce qu'on ait besoin de lui expliquer absolument tout de la situation en avance. Parfois, on peut le faire, parce que parfois, c'est un moment où on peut utiliser ce moment pour l'enseigner quelque chose, mais des fois, les circonstances veulent qu'on n'a pas le temps de tout expliquer. Et je te fais confiance que tu vas me faire confiance et m'obéir sans que ça paraît logique à tes yeux et à ton entendement. J'ai besoin que tu fasses cela pour moi. Vas-y, fais-le. Et quand s'il ne le fait pas, bah, ça va nous attrister. Parce que c'est une preuve flagrante qu'il ne nous fait pas entièrement confiance. Il dit, bah, je le ferai si ça paraît logique à moi. J'ai peut-être 8 ans, j'ai peut-être 7 ans, j'ai peut-être 13 ans, peu importe. Mais si ce n'est pas logique à moi, je suis pas sûr si je veux le faire. Et on ne veut pas sortir la carte du « je suis ton père, tu as intérêt à faire ce que je dis, sinon ». Mais la joie qu'on a, c'est de dire « fais-moi confiance, fais ceci, tout ira bien ». Et il le fait sans hésiter. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que c'est différent entre nous et Dieu? Quand Dieu nous dit « fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, je sais que ces circonstances apportent de la crainte, je comprends qu'elles te font peur, mais fais-moi confiance, continue à marcher, continue à aller de l'avant, continue à garder les yeux sur moi, continue à être fidèle, tu arriveras de l'autre côté, tu pourras traverser cette épreuve. Je ne vais pas toujours enlever l'épreuve devant toi pour toi, mais je t'aiderai à la traverser, fais-moi confiance. » Et quand il nous voit arriver, il dit, Seigneur, d'accord, je ne vois pas comment cette situation pourra être positive, pourra être constructive, mais je te fais confiance et je vais de l'avant. Je ne remets pas en doute ce que tu me dis. Je ne remets pas en doute ta personne ni tes promesses. Et nous utilisons souvent les versets suivants pour nous encourager à être fidèles dans notre témoignage, mais nous ignorons souvent la dernière phrase en Matthieu 28, 19 et 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On s'arrête là, mais la dernière phrase, c'est, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse que Dieu nous donne pour dire, peu importe ce qui arrive entre maintenant et la fin du monde, peu importe les craintes, peu importe les peurs, peu importe toutes les choses qui voudraient vous distraire et que vous empêcher de vous focaliser sur moi et d'être obéissant, sachez que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La peur, la crainte que vous avez ne sera pas une excuse pour vous empêcher d'arrêter d'aller faire toutes les nations des disciples, entre autres. Quand nous parlons de la crainte et de continuer à être fidèle à la volonté de Dieu, malgré la peur, malgré le fait qu'on est en train de traverser une vallée, cette phrase n'est pas juste des mots d'encouragement, c'est une promesse que Dieu nous donne. Je suis avec vous, pas juste pour vous, je ne suis pas dans ton camp en train de cheer you on, comme on dit en anglais, mais je suis avec vous, à vos côtés, en train de vous aider jusqu'à la fin du monde. Vous savez, la peur n'est pas un mot qui devrait définir un chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais peur, mais qu'il ne va pas laisser cette peur définir comment il réagit. La peur elle-même n'est pas un mot qui définit un chrétien. Nous pouvons avoir peur, nous pouvons avoir des moments de panique même. On peut se poser plein de questions quand nous recevons la nouvelle qu'une personne qu'on aime vient de décéder, par exemple, ou que le docteur vient nous apprendre que notre enfant a un cancer ou une tumeur. Il est normal qu'on ait pris un coup et qu'on ait une crainte en nous et qu'on se pose des questions. Et la peur va nous faire penser à des choses qu'on ne penserait pas autrement. Mais ce qui devrait définir un chrétien ne sont pas les mots comme crainte, peur ou panique, mais n'est-ce pas des mots qui sont plus attraits aux fruits de l'esprit, tels que foi, paix, amour, confiance. Pas en moi, pas en mes capacités, pas en ce que les circonstances vont changer, mais paix, foi et confiance en la personne de Dieu et en ses promesses. On va s'arrêter là parce que sinon je vais parler d'une illustration, ça pourrait prendre plus de temps.